8h08, ça a l'air d'un combat de coq entre Kim Jong-un de la Corée du Nord et Donald Trump. C'est à savoir qui montrerait le plus ses muscles. Il y en a un qui dit, écoute, si tu fais encore des essais de missiles, ben nous, on va répliquer par l'armée. L'autre qui dit, ben non, il n'y a pas question, je me laisse dicter. Et là, on est rendu à la fin de tout ça, là. C'est qu'à un moment donné, toutes les options ont été examinées. Il y a eu des pressions politiques. On a fait des choses avec la Chine, la Russie, mais... Monsieur Kim Jong-un a toujours l'intention de continuer, semble-t-il, à faire ses essais balistiques. D'ailleurs, il a envoyé un missile au-dessus du Japon récemment. Mais pour faire le point, justement, et répondre à cette question, est-ce qu'il est au pied du mur, Monsieur Donald Trump? Nous avons le spécialiste qu'il nous faut, Monsieur Norman Cornett, professeur, surtout spécialisé dans le domaine de la culture, de la religion et de la politique. Il est avec nous. Bonjour, Monsieur Cornett.
Oui, bonjour, Monsieur Gayou. Et vous avez raison de souligner que le dernier missile, comme l'avant-dernier, ont survolé le territoire du Japon. Donc l'allié, un des deux plus forts avec la Corée du Nord en Asie. Ce qui veut dire que Kim Jong-un, il cible très spécifiquement le territoire des alliés. C'est pas seulement des essais maintenant, mais démontrer qu'on peut atteindre le territoire et ça de façon, on dirait, impunément. Jusqu'ici, on parle des fonds, des sanctions, on vient à l'unanimité, ce qui est exceptionnel à l'ONU. On vient de promulguer d'autres sanctions, mais ce dernier tir de missile c'est en quelque sorte la réponse de Kim Jong-un. Voici ce que je pense de vos sanctions. Et vous faites bien de mentionner aussi l'ONU, puisque c'est aujourd'hui même que Donald Trump, le président, s'adresse pour la première fois de sa présidence à l'ONU, à l'Assemblée générale. Et ça, on peut pas se tromper que la priorité numéro un pour l'administration américaine devant l'ONU, donc dans les discours de Donald Trump avec les chefs du monde entier, eh bien c'est ce petit pays asiatique qu'on appelle la Corée du Nord. Et ça commence à ressembler drôlement aux États-Unis de Lyndon Baines Johnson et Richard Nixon, un petit pays dans l'Asie qui tient tête à tout l'empire américain, si vous voulez, pour employer l'expression de Denis Arcand. Vous avez là, on peut pas contourner la question. Le Vietnam, c'était devenu un trou noir. Les États-Unis se sont embourbés dans tout cela à leur perte. Et les États-Unis gardent en tête qu'au contraire du Vietnam, qu'on a unifié, mais c'est le Nord qui a pris le Sud, les États-Unis veulent à tout prix éviter que ça soit la même issue sur la péninsule coréenne. Ils ne veulent pas ils ne veulent pas que le Nord prenne le dessus sur le Sud, mais comment contrecarrer, d'autant plus que Kim Jong-un, le biais du ministère de la propagande, vient d'annoncer que tant aussi longtemps que les États-Unis disent qu'il y a une option militaire, on ne fera que de plus en plus de tirs de missiles et d'essais nucléaires.
Mais professeur Cornett, on voit Kim Jong-un finalement être pas mal moins bête que ce qu'on a décrit, parce que là, il voit bien, il sait très bien que au-delà des sanctions économiques, au-delà des pressions politiques, que on peut pas rien faire de plus. Donc, il force cette réaction aux sanctions là de l'ONU, puis aux pressions de la Chine et de la Russie. Dans le fond, c'est un pied de nez. Et c'est un peu comme s'il disait, ben, essayez d'être sérieux, voir si vous allez plus loin. Puis on a l'impression qu'il a réussi à piéger l'Occident.
Oui, chaque fois, surtout Trump et les États-Unis.
Ouais.
Chaque fois que Trump pense qu'il le met en échec ou échec et mat, eh bien non, il s'échappe et c'est lui qui met les États-Unis en échec. Et il joue le jeu de la Chine. La Chine a mis clair et net, il n'y a pas d'option militaire américaine sur la péninsule coréenne. Donc tout cela, il le fait avec l'approbation de la Chine. Et là, il y a une escalade dans le discours. J'invite l'auditoire de Radio VM d'écouter ce que disait l'ambassadrice onusienne Nikki Haley hier. Si la Corée du Nord ne se plie pas aux sanctions et aux moyens diplomatiques pour régler cette question, elle sera, et je cite, elle sera détruite. Eh bien, ça n'a rien pour apaiser les esprits, encore moins celle de la Chine. Et on se rend compte à quel point la Chine est maître de tout cela, parce que la Chine, du moment que Rex Tillerson et que Nikki Haley ont fait de tels propos, et je dois signaler que les États-Unis, pour montrer qu'ils ont entre guillemets une option militaire, aujourd'hui même, on fait survoler sur la péninsule coréenne la fine pointe de la technologie militaire, les nouveaux bombardiers B-1B, ainsi que le F-35B, ainsi que les avions chasseurs F-15K. Donc tout ça pour dire, mais nous, c'est sérieux. Et A. Tillerson et McMaster disent, la prochaine étape, c'est la guerre. Mais je crois qu'il faut tenir en compte ce que dit la sénatrice de la Californie, dont je suis ancien, de l'Université de Californie. Diane Feinstein dit, là, ça va faire.
Ouais.
Au lieu de tout demander de la Corée du Nord, contentons-nous pour l'instant qu'on arrête les essais nucléaires, les tirs de missiles et mettons-nous en dialogue avec la Corée du Nord.
Parce qu'un élément important, professeur Cornett, aussi, c'est le silence de la Corée du Sud, qui ne veut pas non plus d'options militaires. La Corée du Sud, ce n'est pas son option privilégiée, parce qu'effectivement, c'est toute la péninsule là, qui risque de s'embraser, puis je ne pense pas que les Coréens du Sud en veulent de ça.
Mais là, voyez-vous, et c'est là encore où la Chine et la Corée du Nord ont le gros bout du bâton. Parce qu'il y a actuellement, en Corée du Sud, il commence à avoir un discours qu'il faut rapatrier des armes nucléaires dans la Corée du Sud pour contrecarrer Kim Jong-un. Eh bien, le président actuel de la Corée du Nord, il est plutôt libéral. Mais les conservateurs sud-coréens disent non. Là, il faut se préparer au pire.
Mais en terminant, là, comment ça va se terminer? S'il n'y a pas un recul des États-Unis dans le discours et dans les intentions d'exercer des pressions, l'option militaire est presque irréaliste, là.
Elle sera même Mattis. Et c'est là où ça fait peur. Hier, Nikki Haley disait, moi j'ai tout fait, je ne me gênerai pas de remettre ce dossier entre les mains de James Mattis, secrétaire de la Défense, et lui va régler le cas de la Corée du Nord si les moyens diplomatiques n'aboutissent pas. Mais et la Chine et la Corée du Nord, ne parlons même pas de la Russie et d'autres, il faut que les États-Unis acceptent qu'on n'a jamais fait la paix avec la Corée du Nord. Ce n'est que l'armistice et ce qu'exige la Corée du Nord ainsi que la Chine. C'est une reconnaissance pleine et entière et diplomatique de la Corée du Nord. Mais les États-Unis officiellement, et Rex Tillerson en l'évoquait, eux visent l'unification de la péninsule coréenne. Mais la Chine n'en veut pas. Elle veut une zone tampon entre les États-Unis, entre les alliés des États-Unis et la Chine. Et c'est donc la raison d'être de la Corée du Nord.
Ouais. Ben, effectivement, mais on verra bien ce qu'il va dire aujourd'hui, de toute façon, parce que c'est ça qui va être à suivre. Mais il y a encore de la place pour certaines négociations et on aura certainement l'occasion d'y revenir. Professeur Norman Cornett, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à vous, monsieur Gaillou.
Au plaisir de se reparler la semaine prochaine.
Avec plaisir.
Et à 8h17, au retour, nous allons parler d'automobile et de Saint-Hyacinthe, qui est en train de devenir un pôle important de développement des transports électriques. Voici Marjo, je sais, je sais, je sais.